Ouellette, bon. En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Je vous le dis souvent, essayons tous ensemble de varier nos sources, d'aller voir un peu partout ce qui se passe. Fait que j'ai appliqué ça moi-même hier. Je me suis branché pas mal sur la télé américaine hier parce qu'il y avait de l'action. D'abord, le lancement d'Artemis 2 que je voulais voir, que j'ai vu. On a regardé ça en famille.
Ouais.
On a regardé ça en famille. C'est important. Des moments comme ça, on regarde ça. Et ensuite, je suis resté branché sur les médias américains pas mal, CNSBC, puis Fox News, puis CNN, parce qu'il y avait, en fin de soirée, autour de 9h, 21h, donc, un discours à la nation de Donald Trump, et c'était la première fois qu'il le faisait depuis le début de cette guerre en Iran. Et là, dans l'entre-deux, entre le décollage d'Artemis 2, qui a été un succès d'ailleurs, et ce discours-là, ben là, on a placé la table et... plein de panels, puis de tables rondes, puis d'analystes qui sont venus essayer de prédire ce qui allait se passer dans ce discours-là. Et j'ai entendu tout et son contraire. Il y en a qui disaient qu'il va annoncer que c'est terminé en Iran, que c'est la fin des opérations. Il y en a qui ont dit qu'il allait quitter l'OTAN. Ça, c'est gros quand même, parce que puis je sais que c'est dans les discussions. Si les Américains quittent l'OTAN, on s'entend qu'on est dans un autre monde. Il y a des gens qui disaient, ils viennent nous annoncer que c'est vraiment pas fini. Et tout ça a été un entre-trois, disons, parce qu'il a dit que c'était pas fini, mais il a dit que ça achevait. Il a dit qu'il restait 2-3 semaines faciles de guerre. Et concernant l'OTAN, il a pas dit qu'il quittait l'OTAN. Il a quand même envoyé un message clair aux autres. Il a dit, moi, mon pétrole... je le prends chez nous. Puis maintenant, j'ai mes nouveaux amis du Venezuela qui nous donnent du... qui nous, d'ailleurs, il dit ça souvent, là, qui nous donnent du pétrole. Pour moi, il y a de l'argent impliqué. Donc, il dit, moi, le détroit d'Hormuz, n'est pas besoin. Fait qu'il dit, si vous voulez... il dit, moi, je vais faire la job sale, là, que personne ne veut faire, puis la job dure, là, c'est-à-dire raser à la place. Après ça, vous vous arrangerez. C'est un peu ce qu'il a dit.
Il va-tu le faire?
Si vous voulez le détroit d'Hormuz, là, la France, puis le Japon, puis ben, arrangez-vous. Et vous irez sécuriser le détroit. Puis évidemment, c'est pas, on n'est pas dans les discours pour se rapprocher, là, pour faire des rapprochements avec la communauté internationale. Allons voir ce qu'en pense notre chroniqueur, analyste géopolitique et également propriétaire, fondateur du site indépendant 7 jours sur Terre, Benjamin Tremblay. Comment vas-tu?
Salut, JC. Ça va très bien. Merci de me recevoir.
Il nous a fait coucher moins tard que je pensais. Trump, habituellement, il commence à parler. On ne sait jamais quand il finit. Ça n'a pas été très long, mais disons qu'il est allé straight to the point.
Oui, effectivement. Puis il a respecté le thème de la soirée. Il vaut la peine de le dire. Là, alors qu'on avait le lancement d'Artemis, Trump nous a offert un discours lunaire. un discours qui était complètement déconnecté de la réalité sur le terrain. En fait, Trump a répondu, essentiellement répété des tweets qu'il avait publiés durant la semaine. Il y a un moment en particulier que j'ai trouvé marquant, là, c'était ce passage sur Hormuz, alors qu'il disait que les alliés devraient trouver du « some delayed courage », du courage en retard pour aller ouvrir eux-mêmes Hormuz. Et c'était, écoute, littéralement verbatim, mot pour mot, le tweet que Trump a publié cette semaine.
Ah ouais?
Il y a deux théories. Soit son tweet, c'est un bout de son discours qu'il aimait tellement qu'il a décidé de publier avant, ou soit il a tellement aimé son tweet qu'il a décidé de l'inclure dans le discours. Mais c'était un des deux. Là. C'était mot pour mot. Puis il a fait ça à plusieurs occasions. On a répété un message qui, au bout de la ligne, était déjà celui de la Maison-Blanche. Puis c'est ça qui est un peu... écoute, quand cette adresse-là a fini, là, je veux pas exagérer, là, mais quand ça a fini, j'ai littéralement dit à voix haute dans mon salon, ça devrait être illégal, ça. Tu devrais pas avoir le droit de solliciter là, les antennes, puis solliciter tous les médias, puis les adresses à la nation, tu es censé avoir quelque chose à dire.
Ben,
si t'as rien à dire, les médias prennent l'hameçon à chaque fois,
ben oui.
Parce que typiquement, les présidents abusent pas de ce levier-là. Typiquement, quand ils vont demander une adresse à la nation,
c'est gros.
Il y a une raison, c'est énorme, c'est qu'on s'attendrait à ce qu'ils annoncent soit retrait immédiat des forces de l'Iran, soit une escalade de débarquement qui explique sa décision d'envoyer des troupes au sol. Il a rien fait de tout ça.
Ben oui.
Il a essentiellement répété son message. Il voulait une tribune pour donner ses arguments.
Puis comme tu dis, c'est que habituellement, les adresses comme ça à la nation, c'est grave. L'heure est grave, fellow Americans. Tu sais, c'est souvent, on rentre en guerre avec le Vietnam. Ouais. Bon, tu sais, les exemples que j'ai dans la tête, c'est l'Irak. Tu sais,
c'est dire comme tu suspends la politique pendant un moment parce que tu veux t'adresser directement, sans filtre, à tous les Américains.
Et les médias tombent là-dedans. Puis comme tu le dis, moi, j'écoutais l'avant-match un peu, si on veut. Là, et c'était ça, les hypothèses. Oui. Il se retire de l'OTAN. Il nous annonce qu'on en a pour un an. Ou il nous annonce que c'est fini. Alors que moi, tu vois, moi, j'ai pas crié, ça devrait être illégal. J'ai dit, c'est tout.
Ben, c'est ça, exactement. Moi, j'étais comme, ben voyons, donc il devrait demander le script avant de donner le temps d'antenne. Puis si jamais il voit que tu dis rien, laisse faire, on te laisse pas parler. Fait que ça, là-dessus, ça en dit quand même quelque chose. Il vaut la peine d'analyser quand même le non-dit. Le fait que Trump sollicite comme ça du temps d'antenne à travers la nation au complet et qu'il n'ait rien à dire à part de répéter ses arguments, ben ça nous dit que Trump actuellement est inconfortable avec la réception populaire de cette guerre en Iran, qu'il essaie de faire bouger l'aiguille, qu'il veut parler aux Américains, expliquer ses arguments, essayer autant que possible de les convaincre de l'efficacité de la campagne, mais aussi du fait qu'il y a un élément de prévisibilité, que la Maison-Blanche n'est pas en train d'improviser. Et ça, ben Trump ne l'aurait pas fait s'il avait l'impression que ça allait dans la bonne direction. C'est clairement, on lui a communiqué des sondages qui sont de plus en plus inquiétants pour ce qui est de l'appui populaire à la guerre en Iran, puis plus largement à Trump et aux Républicains. On voit qu'il y a vraiment un bris de la coalition. Fait que Trump décide comme ça d'y aller d'un geste de désespoir, d'un geste de panique d'une certaine manière, ça nous en dit extrêmement long. Puis encore plus, moi, je vais ajouter quelque chose là-dessus. C'est que là, on sait tous très bien que d'ici quelques jours, il va y avoir une invasion terrestre, ou du moins des opérations au sol par les troupes américaines. Comment on fait pour le savoir? Bien, c'est que Trump nous a annoncé hier que les opérations allaient continuer pendant au moins 2 à 4 semaines encore. Comme quoi, on avait encore pour un petit bout, ça achève, mais on n'est pas encore terminé avec nos objectifs. On sait que la prochaine étape de l'escalade, c'est ce débarquement de quelques 17 à 50 000 troupes, dépendamment de la fenêtre qu'on observe, qui sont actuellement dans la région, à savoir, est-ce qu'on va prendre cargue, est-ce qu'on va déployer des troupes sur le littoral? On sait, une chose est certaine, les États-Unis étudient sérieusement des scénarios de débarquement au sol. Et pourtant, Trump n'a pas saisi l'opportunité, de communiquer cette possibilité aux Américains, comme quoi si jamais on prend cette décision, voici avec quels paramètres on la prend, pourquoi on la prend, quels sont nos objectifs. Il n'a rien fait de tout ça. Fait que non seulement il a sollicité du temps d'antenne pour rien ajouter, mais encore plus, très bientôt, on va se dire que c'était une belle opportunité ratée d'expliquer ce qui s'en venait. Pourquoi t'envoies des troupes au sol? C'est que les objectifs stratégiques. Pourquoi t'as pas d'autre option? Pourquoi c'est ta responsabilité d'ouvrir Hormuz? Là, il souffle le chaud et le froid à nous dire « c'est pas de notre responsabilité, les alliés devraient aller l'ouvrir », mais en même temps, on apprend le lendemain que Trump dit en privé que la guerre ne se terminera pas tant qu'Hormuz n'est pas ouvert et que l'on planifie pour 3 à 4 semaines d'opération. Ben, c'est une occasion ratée, vraiment.
Ben, c'est qu'on dirait que... Puis là-dessus, par contre, je vais quand même, il faut le souligner, là, les alliés sont pas très présents. Je comprends qu'il n'y a personne qui veut se mettre dans la photo à côté de Trump. Ouais. Et c'est de voir, je pense, qui sera le premier. Peut-être qu'après ça, ça faciliterait les choses pour les autres. Mais là-dessus, par contre, je dois dire qu'il y a un point, je pense, qui touche un peu les Américains. C'est-à-dire que les Américains, malgré que je pense que le gros de la haine est dirigé vers le président, mais sont un peu isolés présentement. Quand tu dis Américain, les gens font des phases de dégoût, tu sais, Américain.
Absolument.
Donc, il y a quand même un point que je vais lui donner, c'est que quand c'était le temps de l'Ukraine, même à l'époque de Trump, les Américains étaient là. T'sais, même si c'était pas leur guerre, sont allés, ils ont donné des milliards. Alors que là, il dit, où êtes-vous? Puis sur le point d'Hormuz, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de les compromettre, il essaie de les forcer d'une façon à s'impliquer sans s'impliquer. Parce que selon lui, je suis pas certain que c'est vrai à 100%, mais lui, il dit, moi, j'en ai pas besoin de ce pétrole-là. Demain matin, tu me dis, j'ai plus accès, on s'en fout.
C'est ça qui est pas vrai non plus dans son argument, puis qui est vraiment intellectuellement embarrassant, parce que là, il est en train de suggérer que les États-Unis sont pas exposés aux aléas du prix du marché par rapport au pétrole. Le pétrole, c'est un marché global, puis en ce moment, le baril de pétrole en Californie, il se vend 150 $ par baril. Pourquoi? parce qu'ils arrivent à partir des approvisionnements d'Asie. Les États-Unis n'approvisionnent pas leur côte ouest en pétrole. Il n'y a pas de pipeline qui traverse d'est en ouest de cette manière-là. Ça paraît absurde, mais on a affaire à un marché mondial. Si tu perds une proportion, les prix augmentent pour tout le monde. Les États-Unis ne sont pas dans un vase fermé là-dessus. Et même s'ils l'étaient au niveau exclusivement du pétrole, bien, tout le monde a quand même besoin, au niveau de l'économie mondiale, d'avoir un intrant d'énergie qui est abordable. Les États-Unis sont très exposés à l'environnement économique international, mondial. Puis après ça, on pourrait parler, par exemple, des fameux Magnificent Seven qui composent à peu près 50-60 % du S&P 500, ces fameuses compagnies technologiques américaines qui sont entièrement dépendantes du cycle de production de semi-conducteurs. C'est fait avec quoi, ça? Si c'est pas de l'énergie, si c'est pas du pétrole importé du Moyen-Orient, Taïwan prend 80 % de son mix énergétique, c'est du pétrole du Moyen-Orient. Fait que c'est tellement embarrassant de suggérer que nous autres, c'est pas grave si le prix de l'énergie explose. C'est littéralement vulgarisateur, mais pas dans le bon sens de la chose. On est en train de prendre un enjeu extrêmement complexe puis d'essayer de faire croire aux Américains que ça va rien changer à la pompe. Déjà, au moment où on parle d'essence à 4 $ le gallon. C'est beaucoup plus que ce à quoi les Américains sont habitués.
Mais au bout de la ligne, est-ce que les Alliés, en se bouchant le nez, devraient quand même mettre un orteil là-bas? Tu sais, parce que eux autres aussi, là, ils ont de l'intérêt. Là,
Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais il faut mettre la nuance. Je suis d'accord avec toi que les Alliés ont commis une erreur stratégique, au sens où les États-Unis cherchent un prétexte là, pour dire à quel point l'OTAN, c'est de la merde. Les Alliés ne viennent pas nous aider. C'est une rue à sens unique. C'est le speech de Trump depuis le début. Les Alliés avaient une opportunité incroyable de lever la main à très faible coût et d'au moins gesticuler, là, envoyer de l'aide symbolique, un ou deux navires, aller faire des interceptions, quelque chose qui n'aurait pas été une implication dramatique ou catastrophique dans le conflit, qui n'aurait pas nécessairement placé les forces armées dans le feu croisé, mais qui aurait au moins satisfait les revendications des États-Unis, puis agi comme une sorte de bonne foi. Maintenant, là, il y a quand même une nuance qu'on doit apporter là-dessus. Oui, ils ont raté une opportunité, mais ils ont absolument raison quand ils nous disent que ce n'est pas la mission de l'OTAN. Puis là, la comparaison entre l'Ukraine puis Hormuz vient vraiment s'effondrer parce que l'OTAN a été configurée pour être une alliance défensive contre la Russie spécifiquement dans le théâtre européen. Fait que là, on vient à dire, OK, ben là, on prendrait cette alliance-là, on la dégreffe de l'Europe, on l'envoie dans le Moyen-Orient, puis là, son nouvel adversaire, c'est l'Iran. Et je comprends comment les Alliés peuvent dire, attends un peu, là, c'est pas le deal qu'on a signé. Nous autres, on a une entente pour notre propre sécurité en lien avec la menace sécuritaire qu'on estime la Russie. De changer ça comme ça pour l'Iran, puis dire, ben là, on vous mobilise pour une guerre au Moyen-Orient, ils ont absolument de raison. C'est pas l'OTAN qui devrait gérer ça. Ça aurait dû être fait sur une base bilatérale. Ouais. C'est pas parce que la France est membre de l'OTAN qu'elle peut pas envoyer des soldats, puis qu'elle peut pas envoyer des unités d'interception, qu'elle peut pas envoyer des navires ou quoi que ce soit, ou de l'aide humanitaire. Tu sais, il y a un million de trucs qu'ils peuvent faire en ce moment. Ils se font bombarder des usines de dessalement des eaux. Envoyez de l'eau propre, mon homme.
Ben oui. Puis au-delà de ça, on parle de l'OTAN. Moi, j'ai vu dans les rumeurs hier sur de différents postes américains, bon, est-ce que Trump va mettre sa menace à exécution? Ouais. Et là, je veux jaser de ça avec toi. Le jour où les États-Unis débarquent de l'OTAN, c'est mon opinion personnelle, mais l'Europe est mal barrée. Là, t'sais, je veux dire, l'Europe s'est assise là-dessus pendant tellement d'années à se dire, c'est pas grave, mon oncle américain est là. Puis si jamais ça chire, mon oncle américain débarque, il va nous aider. Le jour où les États-Unis vraiment là, prennent acte et disent « c'est terminé l'OTAN, on n'envoie plus personne à votre, au moindre signalement »,
ça va changer.
Écoute, le monde a changé, puis probablement que des ennemis d'aujourd'hui deviennent des amis, là.
Bien, c'est exactement ça. On a produit un documentaire sur cette question spécifique, là. Puis moi, ce que je disais, comment c'était titré, c'est « L'OTAN s'effondre, l'Europe suivra ». Parce que c'est exactement la conclusion que toi, tu tires, à laquelle j'arrive aussi, comme quoi l'OTAN, c'est un peu la colle qui tient l'Europe ensemble depuis la fin de la Deuxième
L'Occident,
Guerre mondiale.
L'Occident, quasiment, disons-le.
L'Occident, on pourrait dire, mais surtout l'Europe, parce que l'Europe a vraiment une tendance naturelle, historiquement, à s'entre-déchirer pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes mêmes intérêts. On a un ensemble de pays qui ont des positions géographiques, économiques, sociales, politiques complètement différentes. Puis tu ajoutes à ça des cultures, des langues, des gens qui ne se comprennent pas, qui ne sont pas d'accord sur tout et qui, en ce moment, sont un peu tenus en se bouchant le nez dans une alliance sécuritaire, dans la même architecture sécuritaire par les États-Unis. À partir du moment où tu retires les États-Unis, bien là, tout le monde doit trouver un moyen de récupérer ses capacités défensives perdues là, où là, soudainement, tu n'en as plus de bombardiers stratégiques, tu n'en as plus de sous-marins, tu n'en as plus de capacités de ravitaillement aérienne. C'était tous les Américains qui amenaient ça. Bien là, qu'est-ce qu'elle va faire, la Pologne? Qu'est-ce qu'elle va faire, l'Allemagne, la France? On voit déjà ce qui est en train de se passer. Face à l'effondrement de l'architecture sécuritaire européenne, ils essaient chacun, individuellement, de créer leur propre architecture. Fait que là, t'entends l'Allemagne qui dit « Ouais, bon, nous autres, on s'en sac dans le fond de l'Espagne puis de la Pologne. On va faire un deal avec la France.
Ouais. »
Puis la Pologne, elle, va faire un deal avec les pays baltes, et etc. Fait que là, on voit vraiment, une, comme tu le dis, là, une fragmentation de l'Europe où on revient un peu à son état de nature avec plusieurs blocs géostratégiques, avec des intérêts croisés, souvent incompatibles, qui, naturellement, vont être un peu plus portés vers le conflit. Fait que quand on dit l'effondrement de l'OTAN, c'est sûrement par extension, l'effondrement de l'Europe, c'est loin d'être une exagération. Là, on a vraiment affaire à un moment pivot dans l'histoire.
Merci, Benjamin. Toujours le fun de jaser avec toi. Merci d'être là chaque semaine. On se reparle la semaine prochaine. Salut, bye.
Bye.
Salut. Ben, oh. Benjamin, un homme occupé, il y a d'autres choses à faire.
C'est assez.
Pour ceux qui disent, c'est quoi le documentaire? C'est disponible sur la page YouTube 7 jours sur Terre parmi une longue série de documentaires assez intéressants. Merci. On fait une pause. Au retour, on jase d'arbres. Ben oui, on est de même.
Ouellet, bon. En direct.
Ah, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.